Bienvenue si vous nous retrouvez dans cette deuxième partie de Chine Hebdo. Le marché de l'automobile en Chine, vous verrez que les lignes bougent très très vite. Il est en pleine mutation ce secteur, plus de concurrence, des consommateurs de plus en plus exigeants, peut-être de plus en plus volatiles aussi. Pour mieux comprendre comment bougent ces lignes dans ce secteur très convoité par toutes les grandes marques étrangères en Chine, nous sommes avec Adi Zablit. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur associé au bureau de Paris du Boston Consulting Group et justement vous venez de publier une note très intéressante qui met en exergue justement tous les nouveaux enjeux de ce secteur automobile en Chine. Déjà peut-être première constatation, c'est qu'il a changé de visage ce secteur.
Effectivement, le marché de l'automobile en Chine est en train d'évoluer. Ça reste le plus grand marché, 21 millions de voitures attendues cette année, une croissance qui s'affaiblit, mais qui reste quand même la principale source de croissance dans le monde. C'est un marché qui mûrit. Les consommateurs commencent à bien connaître la voiture, à être exigeants, à savoir qu'est-ce qu'il faut, quels sont leurs besoins et comment les satisfaire. Ils commencent à se rapprocher en complexité des marchés occidentaux, avec une différence par rapport aux régions. Ils attendent des clients différents d'une région à l'autre. Et la macroéconomie, elle va avoir un impact sur ce marché-là. On constate aujourd'hui qu'avec l'augmentation de la main-d'œuvre, par exemple, la distribution commence à ne plus gagner d'argent. Donc on s'attend encore plus de mutations à venir dans les années à venir.
Et là, vous parlez de macroéconomie, on nous disait cette semaine sur BFM Business que voilà, c'est pas du tout officiel, mais maintenant on dit qu'il y a une croissance qui peut être même sous les 7%. Pas forcément suffisant pour porter les besoins de la Chine. Comment s'en sortir à ce moment-là? C'est-à-dire qu'avant, pour revenir sur le secteur automobile, on disait en gros, pour schématiser, c'est l'Eldorado, on y va et on croque un morceau du gâteau. Aujourd'hui, non, on arrive sur un marché où dans votre note, vous dites qu'il y a plus de 500 modèles, des concurrents de partout et puis des indicateurs macro qui sont pas forcément non plus au rendez-vous. Donc attention.
Effectivement, attention, il faut commencer à être très performant pour pouvoir s'en sortir.
Alors justement, que doit faire aujourd'hui une marque, un constructeur pour se démarquer? On est condamné à se démarquer aujourd'hui en Chine.
Alors c'est le constat de le premier constat de l'étude. Aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des marques ont un contour plutôt rond. Donc on ne se distingue pas. Donc les marques se distinguent aujourd'hui, c'est plutôt des marques par défaut que des marques qu'on recherche. Donc on va aller faire une marque telle que Volkswagen qui est une marque refuge. On constate dans le segment de masse, comme on l'appelle, que les gens citent la marque Volkswagen par défaut. 50% d'eux choisissent Volkswagen plutôt par défaut qu'un vrai choix, parce que c'est la seule marque refuge qui inspire confiance. Pareil dans le segment premium. Cette constatation-là rend la vie, on va dire, difficile aux autres marques. Et c'est en quoi la vie est difficile? Il y a beaucoup moins de fidélité aux marques en Chine que dans les autres pays. Donc on va se retrouver une fidélité de l'ordre de 17% pour les marques chinoises, de l'ordre de 30% pour les marques de masse, on va dire, et ça monte à 45% pour les marques premium.
Et comment vous l'expliquez, ce manque de fidélité? Aujourd'hui, un consommateur chinois qui achète sa première voiture, il n'est pas fidèle, il se dit pas, tiens, c'est ma première Peugeot, je m'en rappellerai un peu toute ma vie, c'est un peu de l'ordre de l'affect. En tout cas, culturellement, ça se passe un petit peu comme ça chez nous. Bon, je cite Peugeot, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Non, en Chine, on est beaucoup plus exigeant, on n'a pas confiance. Qu'est-ce qui se passe?
Effectivement, faut mettre en perspective l'évolution du consommateur chinois. Donc un consommateur chinois, il se projette avec un niveau de vie et de potentiel d'achat supérieur dans le futur. Donc quand il achète sa première voiture, avec la deuxième voiture, il s'attend à avoir quelque chose de différent. Donc il va être plus exigeant, il va monter en gamme. Et donc dans la montée en gamme, il va chercher des attributs différents, fonctionnels ou émotionnels.
C'est-à-dire qu'au moment T, il se dit, ça c'est en attendant d'avoir mieux. Et donc voilà. Il ne va pas rester fidèle à ce qu'il a en ce moment.
Donc première chose, j'ai acquis une voiture. Deuxième chose, j'ai acquis une meilleure voiture parce que ça va avec le statut social et je vais m'améliorer. Il faut savoir qu'en Chine, la recommandation avec les amis compte énormément. Et donc ça fait partie aussi des choses comme la voiture, il faut qu'elle confirme le statut social et le statut avec les amis.
Donc là on est toujours dans le fameux réseau en Chine qui là-bas a une connotation très forte, le Guanxi, comme on appelle sur place.
Tout à fait.
Est-ce un plus à Disabli, je rappelle, vous êtes directeur associé au Boston Consulting Group, est-ce que c'est un plus aujourd'hui d'être une marque étrangère en Chine?
Alors, certainement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les marques chinoises plafonnent en termes de prix d'achat à peu près à 80 000 yuan, ce qui donne 14 000 dollars. Et donc au-delà de 14 000 dollars, c'est très difficile d'acheter une marque chinoise. Donc Corus, qui est une marque chinoise qui a fait une voiture équivalente techniquement, on va dire, à une Volkswagen, n'arrive pas du tout à vendre dans ce segment-là. Donc il y a une limite au prix d'achat pour les marques chinoises. Donc les marques étrangères, internationales, s'autorisent à un premium de prix et surtout permettent de faire débourser plus aux clients.
Et dernière question, comment les constructeurs français, eux, se positionnent par rapport à ce nouvel environnement
risque
difficile,
et opportunité. Risque parce qu'en fait, elles sont pas encore très connues dans l'environnement. Opportunité parce qu'avec toute cette évolution et les clients qui sont pas fidèles, donc on peut capter les clients. Par contre, c'est pas un enjeu facile. Je prends un exemple. Vous lancez dans le premium. Il faut vraiment avoir les bonnes qualifications attributs pour convaincre un client chinois d'acheter une marque non premium parmi les trois, BMW, Audi, Mercedes, et donc une autre marque. Il faut qu'il arrive à justifier auprès de ses amis, auprès de son environnement, auprès des parents, l'achat d'une voiture différente. Donc il faut vraiment se différencier beaucoup plus fortement pour que le choix soit porté et qu'on puisse faire débourser à un client le même montant équivalent à une voiture premium, on va dire, réputée sur le marché.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à Adis Ablit. Je rappelle, vous êtes directeur associé au bureau de Paris du Boston Consulting Group. Cette note sur l'évolution du marché automobile en Chine, vous pourrez sûrement la retrouver sur le site du Boston Consulting Group. Une note d'ailleurs dont le Financial Times a fait écho cette semaine. Merci beaucoup.
Chine Hebdo, le monde selon Faye.
Le monde selon Faye, c'est votre nouvelle chronique. Faye est une sérielle entrepreneur chinoise, entrepreneuse, qui vit à Paris aujourd'hui. C'est le regard unique du